un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Son compte Twitter s'appelle Sir Yes Sir, une réplique que hurlent des soldats américains pendant la guerre du Vietnam dans Full Metal Jacket, le film de Kubrick, et qui indique en gros l'obéissance aveugle. La description de ce compte précise, je cite, « un petit cœur de bisounours dans un parquetier qui rit très fort et aime la rillette, procureur du TJ de Trifouilly, le baveux ». La proc donc, y poste pas mal de photos de son chat, des coups de gueule et de nombreuses histoires saisies sur le vif au tribunal, comme celle-ci par exemple. Un prévenu en audience de plaider coupable hier m'a dit que j'avais une très jolie manucure, j'avais déjà proposé la peine, il avait déjà accepté, c'était même pas pour failloter. Sir Yes Sir, le compte donc a 70 000 abonnés, la femme a un bon ego et assez envie de s'exprimer. On a voulu savoir qui elle était en vrai, comment elle voit son métier et si elle était vraiment, comme on l'a appelé, méchante, mais pas trop. Elle a reconstitué et commenté pour nous quelques réquisitions qui ont marqué sa carrière. On l'écoute tout de suite au micro de Leila Jitli, la vie quotidienne dans un tribunal de grande instance d'une ville moyenne du sud de la France.
Je m'appelle Jeanne Kilfen, j'ai 40 ans, je suis vice-procureure de la République, j'ai un compte Twitter dont le pseudo est Sir Yes Sir. C'est une réplique du film Full Metal Jacket, et Sir Yes Sir, ça faisait référence au principe hiérarchique. Beaucoup de gens ont déduit que j'étais un homme, mais ça n'avait rien à voir avec le genre. Je suis un magistrat du parquet, ce qu'on appelle la magistrature debout. Mon rôle, c'est pour vraiment schématiser, diriger les enquêtes, ça c'est la phase avant procès, décider s'il y a procès ou pas. Au procès, porter la parole de la société en prenant des réquisitions. Donc, je propose au juge la peine qui me paraît juste, adaptée tant au fait qu'à la personnalité de la personne poursuivie. Et après le procès, on a toujours un rôle puisqu'on est garant de l'exécution des peines. On est toujours dans le rôle du méchant, entre guillemets. C'est nous qui poursuivons, c'est nous qui portons la parole de la société pour réclamer une peine. Je suis très à l'aise avec le fait d'être l'accusation. Je suis la méchante. Après, j'ai un rôle important puisque le procès, sans moi, dans la quasi-totalité des cas, il n'a pas lieu. C'est moi qui décide de la tenue de ce procès. J'ai commencé à raconter la justice au début sur Twitter parce que ce que je vois et ce que je lis de la justice, ce n'est pas celle que je vois au quotidien. En fait. Déjà, et c'est normal, dans les médias, on parle des affaires un peu paillettes, les faits divers qui marquent, les histoires criminelles qui passionnent les foules, qui vont finir d'en fait entrer l'accusé. Mais le quotidien d'un proc, c'est d'un juge, c'est pas ça. C'est la justice ordinaire, c'est les affaires qui, pour le prévenu, pour la victime, c'est l'affaire de leur vie, mais qui n'intéressent pas les foules. C'est ça, nous, qu'on fait au quotidien. J'en ai des procès d'assises, mais si j'en ai 3 par an, c'est déjà beaucoup. Par contre, des correctionnels, c'est toutes les semaines. C'est ça, la vraie justice. Les assises aussi, c'est la vraie justice. Mais cette justice du quotidien, avec tellement de nuances de gris qu'on ne peut pas s'en rendre compte si on ne va pas les voir de près, c'est vraiment autre chose que ce qu'on vous balance dans les chaînes d'infos en continu, qui font le job, hein, mais où c'est très tranché, où c'est très manichéen. Je me souviens bien de mon premier jour, c'était un jour de septembre, puisqu'on prend nos fonctions en septembre, tout début septembre. J'avais rendez-vous avec mon procureur. Je m'étais mise à peu près aussi convenable que je savais faire à l'époque. Convenable à l'époque, c'était quand même déjà assez gothique. J'ai pas un look qui est très, courant dans la magistrature. Je me suis un peu calmée depuis, mais je me rappelle que j'avais gravi les marches tout en noir, un peu voyant, pas très discret. Je suis pas un être très discret, voilà. Bizarrement, j'ai jamais trop été dans le moule, mais on m'en a jamais fait la réflexion négativement. Je me rappelle de ma première audience, c'était dans cette semaine-là. C'était une audience route, donc où on fait que des infractions routières. Donc c'est réputé être assez simple. Ça m'angoissait pas tellement l'audience. Ce dont je me souviens le mieux, c'est la première fois qu'on m'a laissé la permanence. C'est-à-dire que c'est un vendredi, on vous laisse le téléphone de perm. À l'époque, on faisait pas ça de façon informatique, c'était un classeur avec toutes les informations, les dates de convocation. Et on vous laisse le téléphone de perm et le classeur. Et là, vous avez un très grand moment de solitude parce qu'on peut vous appeler pour à peu près tout et n'importe quoi. Mon procureur m'avait taquiné en me disant que lui, ça sera la première paire, mais il avait eu une prise d'otage. Il m'avait rassuré en disant qu'il serait là s'il y avait un problème. Évidemment, il l'a toujours été. Hein. Le parquet, c'est une équipe, donc on peut toujours compter les uns sur les autres. Mais oui, il y a ce sentiment de très grande solitude quand vous savez qu'il va vous être rendu compte pendant une semaine de toutes les gardes à vue, de toutes les affaires graves, de toutes les choses un petit peu notables qui sortent de l'ordinaire niveau délinquentiel et criminel. Donc ça, c'était un peu anxiogène. Ouais. On s'y fait, hein, mais la première fois, c'est un peu impressionnant. Une salle d'audience, c'est un théâtre et chacun a un rôle à jouer. Donc, c'est clair que être un parquetier, c'est vraiment incarner la fonction du ministère public à l'audience. Donc, c'est un peu être le centre de l'attention au moment des réquisitions. C'est porter la voix de la société. C'est la porter d'une certaine manière sur la forme, en parlant fort, en posant les choses, en disant on a chacun notre style. Hein. Et moi, j'ai eu un président qui disait que j'avais des réquisitions à la tonton flingueur. Ça représente bien, je pense. Moi, je suis très franche, pas forcément dans un langage très emprunté. Après, on utilise des termes juridiques. Il faut appeler une infraction par les termes juridiques qui lui vont. Quand je vais à l'audience, je le conçois comme faire la bagarre, lutter contre un adversaire avec des moyens loyaux, légaux, pour défendre les dossiers auxquels je crois. Donc c'est aussi un métier de niaque, en fait.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Tribunal, il n'est bien heureusement pas courant de voir un jeune garçon de 18 ans, à peine passé, présenté devant votre juridiction, statuant à la forme de la comparution immédiate.
La gravité des faits... Il y a une histoire, donc, quand j'étais jeune substitut, donc j'avais... 2 ans de fonction, je pense, et j'étais substitut mineur. J'ai souvent été substitut mineur. C'est une matière qui plaît pas beaucoup aux parquetiers en général. Mais moi, j'ai toujours adoré ça. Mon contentieux phare, c'est les mineurs et les violences conjugales. Ça a toujours été mineur-famille. Et j'étais jeune substitut mineur, et il y avait ce gamin qui est arrivé sur mon ressort. Il est arrivé sur mon ressort parce qu'il avait été placé par un juge très loin. Il avait énormément de casseroles. Une enfance extrêmement heurtée, avec pas beaucoup de bonnes fées qui s'étaient penchées sur son berceau. Son contexte, c'était une maman qui l'avait élevée toute seule, qui était alcoolique, qui se droguait, qui l'avait connu les foyers très tôt. Et en fait, même quand on a une enfance comme ça, très carençante, très défaillante, on continue beaucoup, et Dimitri il le faisait beaucoup, de rêver l'idéal de la famille. Donc il n'arrêtait pas de fuguer pour retrouver sa famille, et à chaque fois il revenait déçu, parce que l'idéal à la maison, il n'y était toujours pas. C'est pour ça que son juge l'avait éloigné. Mais il continuait de fuguer pour aller voir sa mère, hein. Même un parent maltraitant, et Dimitri, il avait été très maltraité dans son enfance, son gamin, il l'aime, évidemment qu'il l'aime. C'est le seul qu'il a, en fait. Donc, sa mère l'aimait, Dimitri, très mal, et en le faisant pousser pas droit, mais elle l'aimait. C'est des amours qui détruisent, mais... Et ça le détruisait, Dimitri, de pas réussir à faire le deuil de cet idéal-là. Et il était aussi attachant qu'insupportable, parce que la manière... qu'il avait de passer toute cette colère qui lui provenait de ce parcours, bah, c'était de commettre des infractions. Et c'est pour ça que son juge l'avait éloigné de son cercle familial en espérant qu'il pourrait investir un peu sa propre vie à lui. Ça n'a pas très bien marché puisqu'il a continué à commettre des infractions sur mon ressort jusqu'à ce que je le défère. Déférer, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une garde à vue, les gendarmes ou les policiers amènent au proc le gardé à vue qui éructe, qui crie, qui est très mal, qui porte sa souffrance physiquement, hein. On voit qu'il est très mal, il a 17 ans et quelques mois. Et donc je sais que dans quelques mois, ben, il va devoir aller dans le grand bain et ça ne sera plus le tribunal pour enfants, ce ne sera plus le juge des enfants, ce sera le tribunal correctionnel. Je connais son casier qui est déjà extrêmement chargé, donc je sais que premier passage devant le tribunal correctionnel, ça va faire très mal. Hein, le juge des enfants, c'est un juge quand même plus bienveillant. Il y a des principes qui régissent la justice des mineurs, la primauté de l'éducatif sur le répressif, on encourt des peines moins fortes. Mais du jour où on a 18 ans, ben c'est terminé, quoi. Donc, et je sais que ça se profile, ça. Donc vous êtes cadrante, vous incarnez la loi... Mais la loi, elle n'est pas aveugle et sourde, donc je l'ai écoutée. Il n'avait pas grand-chose de positif à dire sur rien, en fait. Dimitri, c'était un peu une partie du problème. Il n'en avait plus rien à foutre de rien, puisque personne n'en avait rien à foutre de lui, ni sa mère, ni son juge, ni même moi, que son foyer l'avait enfoncé plus qu'autre chose, qu'il en avait marre, qu'il n'en avait rien à foutre d'avoir fait des victimes. C'était un flot continu de colère, en fait, parce que c'était la seule chose qu'il était capable de ressentir et il ne pouvait pas exprimer grand-chose d'autre. Alors, en l'espèce, il avait cambriolé le patron qui l'employait. donc il l'avait forcé avec un pied de biche la nuit. Ce qui n'est pas grave en soi, sauf quand on a déjà été condamné 8 fois à 17 ans. Donc, et puis surtout, ça mettait le foyer en grande difficulté, puisque c'était un employeur qui accueillait traditionnellement des gamins de ce foyer. Ils ont souvent ça, les foyers des partenaires habituels, qui donnent leur chance à des gamins qui n'ont pas eu beaucoup de chance, justement. Et donc, ça mettait vraiment le foyer en difficulté. Il était violent sur le foyer, il était menaçant avec les éduques. Il racketait un peu les autres petits copains du foyer, qui n'étaient pas forcément en meilleur état que lui. Donc ça commençait à faire beaucoup, juste la structure, elle supportait plus en fait, elle pouvait plus supporter. Donc j'ai demandé son incarcération, parce qu'il se mettait en danger lui et parce qu'il mettait en danger les autres. C'est dur de demander l'incarcération d'un gamin de 17 ans, mais c'est le job quand on a essayé tout le reste et qu'il n'y a rien d'autre qui marche. Parce que la société, elle se protège elle aussi. Hein. Donc Dimitri, il pouvait faire du mal à d'autres gens. D'ailleurs, l'avenir allait me prouver qu'il allait faire du mal à d'autres gens. Parce qu'on m'a refusé son incarcération, il est allé sous contrôle judiciaire encore, alors qu'il avait plein de suivis en cours. Il a recommis une infraction, et cette fois, il avait 18 ans et quelques jours. Et donc, c'était encore sur ma perme, c'était quelques semaines après son déferrement. Et là, je n'avais pas d'autre choix que de le faire passer en comparution immédiate. Il n'avait pas de domicile, pas de boulot. Aucune garantie de représentation, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que lui de remettre une convocation, ça voulait dire qu'il allait s'évanouir dans la nature. Et il avait arraché un sac à une petite mamie. Et il l'avait blessée, pas de manière irrémédiable, mais beaucoup trop que ce que la société peut tolérer sur une petite mamie de plus de 80 ans qui se promène dans la rue. Et donc la première comparution immédiate de Dimitri, je m'en souviens bien, alors que ça fait des années, parce que ça m'avait fait mal au cœur. Quoi. Ça n'a pas empêché que j'ai pris des réquisitions extrêmement sévères. Mais demander plusieurs années d'emprisonnement contre un gamin de 18 ans, c'est jamais le gaieté cœur qu'on fait, même quand on est le méchant.
Les faits sont simples. La victime, 87 ans, marche sur un trottoir, son sac à l'épaule. Un coup sec pour le lui arracher. Lorsqu'elle chute au sol, Dimitri est déjà loin, son maigre butin à la main, sans un regard en arrière ou un instant d'hésitation lorsque la victime se met à crier de surprise et de douleur. Le résultat est là, 15 jours d'ITT, et pourtant, même à distance des faits, je n'ai pas aujourd'hui vu le prévenu jeter un œil à sa victime, sans parler, bien sûr, d'avoir même un mot pour elle. Il a d'ailleurs, dès sa première audition en garde à vue, reconnu les faits, sans les expliquer d'une autre manière que par une période de galère qu'il traversait depuis qu'il a quitté son foyer, il y a quelques jours. Il convient de prononcer une peine à la mesure des faits commis, tenant compte de la personnalité du prévenu, de ses antécédents judiciaires, de la gravité du préjudice causé à la victime. Force est de constater que les multiples suivis dont il a jusqu'à ce jour fait l'objet ne l'ont pas empêché de quitter le foyer dans lequel il se trouvait, se retrouvant alors sans moyen de subsistance et ne voyant dans sa situation aucune autre issue que la commission d'un délit qui, au vu de la nature des faits commis en état de récidive légale, lui font aujourd'hui encourir une peine de 20 années d'emprisonnement. 20 années. Que de risques pour quelques heureux fauchés au coin d'une rue, au parfait mépris des conséquences pour la victime qui était pourtant visiblement vulnérable. Quel sentiment d'échec surtout, face à toutes les tentatives mises en œuvre au cours de sa minorité pour que Dimitri travaille ses problématiques personnelles et s'éloigne enfin de la délinquance. Ainsi qu'il en avait été averti très récemment, dans cette même enceinte, devant le dernier tribunal pour enfants qui avait à connaître des délits commis avant ses 18 ans, Dimitri est maintenant majeur et il doit répondre de ses actes comme un adulte qui n'est pourtant, de toute évidence, pas encore tout à fait.
Parfois c'est dur d'être méchant à l'intérieur, mais à un moment, si vous voulez qu'un gamin comprenne, quand on lui a dit 10 fois, la prochaine fois, Dimitri, ça va faire très mal. Si même le magistrat qui incarne la société ne respecte pas ses promesses, qu'est-ce qui lui reste comme repère, en fait ?
Alors qu'il commence cette vie d'adulte, il n'a aucune perspective d'insertion, aucun travail, aucune formation, malgré les obligations d'en rechercher auxquelles il était astreint. Il n'a pas de domicile, puisque le foyer qu'il hébergeait ne le souhaite plus dans ses murs. Il n'a engagé aucun soin pour soigner ses problématiques addictives et son rapport à la violence. À ce jour, Il est impossible de ne pas prendre en compte le danger qu'il représente pour la société et l'impossibilité jusqu'à présent à avoir eu la moindre prise sur sa fuite en avant dans la délinquance.
S'il y a bien quelque chose qui ne change jamais aux mineurs, c'est qu'on ne fait que croiser des Dimitri. Voilà. Les ados, ça transgresse parce que c'est dans leur mode de fonctionnement de transgresser. Mais un ado transgresse une fois et puis on lui rappelle la loi, ses parents lui rappellent le cadre et on arrête. Sauf quand on n'a pas les codes. Et quand on n'a pas les codes et qu'on est comme Dimitri, on continue à transgresser, à accumuler les mentions au casier, à finir par faire des allers-retours en détention quand tout le reste a été tenté. Et donc ça, c'est un peu le quotidien du substitut des mineurs. Ouais.
Et vous savez ce qu'il est devenu ?
J'ai pas su parce qu'il est reparti vers là où il pensait qu'on l'attendait, je pense, là où était sa maman, et c'était loin de mon ressort. Une fois qu'il était majeur, on pouvait plus l'obliger, une fois sorti de prison, à être suivi à tel endroit comme un mineur qui reste là où sont ses parents. Donc il est reparti et j'ai pas eu de nouvelles. Non. Il m'a beaucoup marqué celui-là, vraiment beaucoup. Ouais, ouais. C'est le sentiment d'impuissance. Mais je l'ai ressenti à nouveau après. Hein. Mais je pense qu'il m'a marqué parce que c'était nouveau pour moi. D'avoir la conviction que ce que je faisais à ce moment-là, je devais le faire, mais que ça ne servirait à rien, ou en tout cas pas tout de suite. Donc, le quotidien d'un proc, pas que des belles affaires. Hein. C'est la perme où vous êtes un zombie parce que ça fait 4 nuits que vous n'avez pas dormi et on continue de vous demander inlassablement toute la journée, appel après appel, de donner la bonne réponse. Moi, je me rends bien compte des fois que je suis plus vraiment en état de donner la bonne réponse et que faut que je me concentre, faut que je me recentre et que pour autant, des fois, je vais me tromper. C'est sûr que je me suis déjà trompée. J'ai déjà renvoyé des dossiers à l'audience où il n'y a pas eu de condamnation parce que j'avais mal poursuivi. J'ai déjà pris des mauvaises décisions. Parfois, c'est facile, les faits sont reconnus, les faits, ils sont simples, mais des fois, ça l'est moins. Et on ferraille avec l'avocat et le procureur, ça reste... Le directeur d'enquête, ça reste le partenaire des services d'enquête, ça reste le magistrat qui est sur le terrain, qui a les mains dans le cambouis, en fait. C'est un métier d'adrénaline.
Un peu d'égocentrisme, un peu ?
Bien sûr. Un parquetier, avant tout, quand moi la première, hein, j'assume parfaitement, quand on se lève à l'audience et que chacun, y compris la personne poursuivie, est tenu de se taire et de vous écouter, il faut quand même avoir un certain melon. Ça n'empêche pas l'humilité, parce qu'il y a quand même des grands moments de solitude, hein, quand le dossier il se dégonfle à l'audience, ou qu'on perd ses mots, et puis qu'on bafouille, et puis qu'on ne sait plus où on en est dans son raisonnement. Donc le melon, il ne doit pas empêcher de se rappeler que, de temps en temps, on se sent très seul aussi, quand même. Hein. Voilà, maître de stage, quand j'étais à l'ENM, il disait que dans mon ADN, il y avait le parquet, parce qu'ils avaient senti que j'aimais bien la bagarre, et l'adrénaline, et le fait que ça aille toujours vite, que j'ai pas le temps de me poser. J'ai une réputation de pas être très tendre à l'audience. Alors, il y a le train-train du quotidien, les audiences correctionnelles, les audiences du tribunal pour enfants, ça, vous vous y préparez plus, parce que c'est complètement rentré dans votre routine. Ça, c'est mon petit train-train, donc il n'y a pas grande différence entre moi avant et moi pendant. Un peu quand même, parce qu'on incarne la fonction, donc... Faut qu'on se tienne correctement, faut que... Voilà. Mais par contre, il y a un moment où je m'y prépare vraiment, c'est les assises. Où là, ça, c'est pas du tout dans le train-train quotidien. Les enjeux sont très importants. On a pris le temps, on a pris plusieurs jours avec la cour, le jury, pour connaître à fond le dossier. Et là, par exemple, c'est le seul moment où je prépare mes réquisitions de manière extrêmement précise. En général, je dors très peu. Je reprends tout ce qui s'est dit pendant les jours de débat. Donc ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les jours précédents, le jour où je vais requérir, j'y pense dans ma voiture, j'y pense dans ma douche, je trouve une formule, je note ma formule. Moi, je suis pas forcément un procureur très éloquent, mais il faut quand même réussir à faire passer le message sur les faits et expliquer les choses en droit. Et ça, c'est pas facile pour le jury qui n'y connaît rien. Je dois conserver toujours, quand je poursuis, quand je requiers, quand je mets à exécution une peine, le fait qu'en face, c'est pas qu'un dossier, quoi. Que c'est un être humain, qu'il a fauté, parfois de manière gravissime, dramatique, et je lui en demande des comptes à l'audience, puisque c'est précisément ça mon métier, c'est le renvoyer devant ses juges pour qu'il s'en explique. On doit garder cette bienveillance, cette humanité-là. Sinon, on devient des machines, quoi. Mais ce serait hypocrite de dire que je les juge pas. Quand vous avez des viols sur mineurs, quand vous avez des... Moi, en plus, j'ai les violences conjugales comme contentieux. Donc oui, parfois, les faits, je leur dis. Je leur dis que ce qu'ils ont fait, c'est révoltant, que dans la société, ça la heurte. Je juge les faits, mais c'est un peu différent que de porter un jugement de valeur sur quelqu'un et de l'enfoncer. Ça, c'est pas mon boulot, quoi. Dans mon travail, à part substitut des mineurs, j'ai aussi beaucoup fait de violences conjugales. Et une affaire qui m'a marquée, parce qu'elle est assez symptomatique de ce qu'on vit en fait au quotidien quand on est parquetier en charge des violences conjugales. Moi, je suis sur la perme, mais je suis également comme contentieux du quotidien. C'est moi le référent violences conjugales pour mes enquêteurs. Donc, c'est la chef de ma cellule violences conjugales qui m'a appelée un matin. Je n'étais pas de perme, mais pour les dossiers où il n'y a pas de garde à vue en cours, c'est pas forcément surprenant qu'elle m'appelle moi, puisque je suis son référent. Et elle me dit qu'elle est en train de travailler sur une main courante d'intervention de ses collègues de voie publique, donc les policiers qui sont en tenue, qui sont intervenus dans la nuit, pour une dame, on va l'appeler Charlotte, qui a été retrouvée en pleine rue, un peu dénudée et très blessée. Des ecchymoses au visage et sur les parties apparentes de son corps, très alcoolisée. C'est une dame qui est connue sur ma circonscription pour boire, pour s'abrutir pas mal, pour aller sur la voie publique dans des états un petit peu surprenants. De toute façon, elle n'est pas en état de raconter quoi que ce soit. Donc, les policiers l'ont déposée à l'hôpital pour qu'elle se repose, qu'elle soit prise en charge, qu'elle soit soignée. Et ils ont fait en retour au commissariat ce qu'on appelle une main courante d'intervention. Mmh. C'est un petit procès-verbal qui dit « Nous sommes intervenus telle rue sur Charlotte, qui présentait des lésions, point, ça fait trois lignes. » Quand elle a vu cette main courante, mon enquêtrice, elle a un petit peu gratté sur l'environnement de Charlotte et elle a constaté qu'elle vivait avec un monsieur qui a, dans ses antécédents, de multiples interpellations pour des violences conjugales. Donc elle a appelé l'hôpital pour avoir des éléments un peu médico-légaux sur son état. Et on a découvert que Charlotte, outre qu'elle avait des ecchymoses, des lésions, des dermabrasions, donc tout le tableau clinique de quelqu'un qui a pris une bonne raclée, quoi, qu'elle avait également des lésions au niveau intime, qui laissaient à penser, en plus de violences, à des violences sexuelles. Donc elle a contacté cette Charlotte, qui a accepté de venir au commissariat raconter, qui lui a raconté qu'un inconnu l'avait agressée et violée en donnant un certain nombre de détails factuels qui, une fois vérifiés, étaient inexacts. Charlotte, elle a menti, plus ou moins volontairement, sur comment elle s'était retrouvée dans cet état-là. Et donc j'ai dirigé cette enquête et très rapidement, j'avais la même conviction que mon enquêtrice, à savoir que Charlotte, elle était victime de violences conjugales. On a pris contact avec des membres de son entourage qui nous ont expliqué qu'ils avaient coupé les ponts avec Charlotte parce qu'ils n'en pouvaient plus de la voir se foutre en l'air d'alcool et de relations toxiques, puisque ses proches tenaient pour acquis qu'elle était victime de violences conjugales de la part de son compagnon, sauf qu'elle affirmait que non. Et que quand une victime affirme qu'elle n'est pas victime, bah vous partez loin quand même en termes d'enquête. C'est possible d'engager quand même des poursuites. Faut-il avoir des éléments de preuve que vous recueillez ailleurs? Des témoins directs, des confidences qui ont été là. J'avais pas tout ça. Et ça, c'est le cas de conscience, parce que vous savez qu'au niveau pénal, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous engagez des poursuites, vous prendrez une relaxe. Parce qu'elle est méritée, parce que vous apportez pas la preuve de la commission de l'infraction. Sauf que vous savez que ce genre de situation, c'est précisément celles qui peuvent mener au pire, à savoir des victimes qui sont pas capables de se protéger, qui sont dans une telle situation de dépendance affective, d'emprise, d'intériorisation de la violence, qu'elles ont considéré que c'était une situation quotidienne normale, qu'elles ne vous demandent pas de les aider à s'en sortir et que vous devez faire avec. Et mon enquêtrice, elle lui avait dit « J'espère que jamais je viendrai faire les constats sur la découverte de votre corps pour essayer de lui donner un électrochoc. » Mais ça n'avait pas marché. Donc ça, c'est compliqué parce que vous craignez qu'un jour le téléphone y ressonne et qu'on vous dise qu'il y a eu le coup de trop, en fait, ou le mauvais coup, la mauvaise chute. Il y a eu d'autres interventions dans ce couple et elle a toujours affirmé qu'elle était victime de rien et on est resté persuadé qu'elle l'était quand même. Dans un état de droit, heureusement que ma conviction et ma parole, elles ne suffisent pas. Ce serait vertigineux que la seule conviction d'un proc ou d'un juge, ça suffise. Les gens mentent parfois. Et je ne peux jamais savoir. Et donc, dans le doute, vous savez, la formule consacrée, c'est que le doute profite au prévenu ou à l'accusé. Parce que sinon, la parole suffirait à faire condamner des gens. Ce serait vertigineux.
Non, monsieur. C'est bousculade. Ces objets lancés au visage de votre compagne ne sont pas intervenus parce qu'elle vous avait poussé à bout, comme vous avez pu le dire en audition. La détresse qui était la vôtre après la rupture ne vient pas non plus légitimer les mails, les appels et messages incessants de jour comme de nuit, les intrusions au domicile des parents de votre ex-compagne où elle s'était réfugiée ou encore sur son lieu de travail, comportements qui ont profondément insécurisé la victime et ont entraîné une dégradation de son état de santé physique et psychique, ainsi que l'a constaté le médecin de l'unité médico-judiciaire. Il est important que la victime ait entendu au cours de cette audience que raconter la vérité et exposer en détail à quel point ces faits l'ont heurté ne reviennent pas à enfoncer monsieur, comme il a pu lui en être fait grief par le prévenu lui-même ou par des membres de leur entourage commun. Il est impératif que monsieur prenne conscience du caractère non seulement parfaitement inadapté de son comportement dans la gestion d'une fin de couple, comportement qui a perduré sur une longue période sans qu'il soit capable de réaliser ce que son comportement avait de gênant et de profondément anormal, mais surtout il est important qu'il réalise que les faits reprochés sont graves et qui lui font aujourd'hui encourir devant la barre de ce tribunal 5 années d'emprisonnement. Afin de se prémunir de tout risque de récidive, en permettant aux prévenus de travailler sur ces problématiques et de réfléchir à son passage à l'acte, je vous demande de le condamner à une peine de 6 mois d'emprisonnement, intégralement assortie d'un sursis probatoire pour une durée de 2 ans, avec obligation de soins, obligation d'effectuer à ses frais un stage à destination des auteurs de violences conjugales, interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se présenter au domicile de celle-ci, ainsi que sur son lieu d'exercice professionnel, et enfin, obligation d'indemniser la victime.
Je sais, le goût est amer, je sais, tu crois que je m'en vais, pour de bon, pourtant si amer que soit mon départ.
C'était La Proc, méchante mais pas trop, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Clémence Gross. Merci à elle, bien sûr. Son compte, c'est Sœur Yes Sœur. Merci également à Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Flavie Champion, notre stagiaire.